Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Pour la première fois demain, l'Union européenne risque de compter parmi ses membres un pays dont le chef de l'État sera issu d'un parti d'extrême droite. Les Autrichiens vont aux urnes pour le second tour des élections présidentielles qui se jouera entre Norbert Hofer, le candidat d'extrême droite, et le candidat vert Alexander Van den Bellen, après la déroute, la véritable déroute des formations traditionnelles. Que signifie donc cette poussée de fièvre extrémiste dans un pays prospère où le chômage dépasse à peine les 5%? Sortant de sa réserve institutionnelle, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, exclut tout dialogue avec l'extrême droite. Comment l'Union va-t-elle réagir au choix des Autrichiens? Le pays est au carrefour des routes migratoires en Europe. Jusqu'où la gestion de la crise des réfugiés se traduit-elle sur les échiquiers politiques? Du centre au nord du continent, la frontière est-elle en train de s'estomper entre la droite nationaliste à la hongroise et l'extrême droite à l'autrichienne? En Autriche, où le processus de dénazification après la fin de la guerre a été plutôt superficiel, s'agit-il aussi d'un refoulé de l'histoire? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Jacques Le Rider, bonjour. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études et ancien directeur de l'Institut français de Vienne. Jean-Yves Camus, chercheur attaché à l'IRIS et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. En duplex depuis Bruxelles, et je l'en remercie, Vivien Pertuzot, qui est responsable du bureau de l'IFRI à Bruxelles. À Bruxelles aussi, Daniel Gros. Vous êtes économiste, directeur du think tank Center for European Policy Studies, et au téléphone depuis Stockholm, Damien De Georges, chercheur associé à l'IFRI. Jacques Le Rider, commençons par un état des lieux. Donc, l'Autriche, c'est quoi? C'est 8,6 millions d'habitants, un pays de vieille tradition catholique avec cette histoire de l'empire des Habsbourg qui reste, je crois, très présente dans les mémoires. On a vu qu'au premier tour de ces élections présidentielles le 24 avril dernier, Norbert Hofer, donc le candidat du parti FPE. Donc, le candidat du FPE a réuni 36,4% et le candidat vert 21,1%, et ça a été la déroute absolue du Parti social-démocrate et du Parti chrétien-démocrate qui tenait en quelque sorte la politique autrichienne depuis la fin de la guerre.
Oui, ça a été une énorme surprise. Personne n'avait prévu une pareille bérésina des partis de gouvernement. Et le séisme est vraiment extrême. Le chancelier Faymann a démissionné.
Social-démocrate, est remplacé par un autre social-démocrate qui dirigeait la Société des chemins de fer.
Monsieur Kern. Mais à l'heure actuelle, la voix du Parti social-démocrate est très dévaluée et a perdu de son autorité après cette humiliation électorale.
Qui a laissé les instituts de sondage pantois. D'ailleurs, il n'y a pas de sondage avant demain.
Les instituts de sondage sont complètement désorientés et pris au dépourvu, sont obligés de revoir complètement leur logiciel. On ne s'attendait vraiment pas à ce raz-de-marée. On ne s'attendait pas non plus au succès des deux candidats indépendants, Van der Bellen, soutenu par les Verts, et Madame Ries, une éminente juriste, qui sont arrivés deuxième et troisième. Et c'est incroyable que les conservateurs et les sociaux-démocrates soient troisième soient quatrième et cinquième.
Alors commençons par le premier. Donc on verra demain si ce succès se confirme. Donc le candidat d'extrême droite. Donc ça veut dire que ce parti a réussi sa dédiabolisation en quelque sorte.
Complètement. C'est maintenant une autre génération à la fois du côté des électeurs et du côté des candidats. Ça n'a plus rien à voir avec le parti de l'immédiat après-guerre où on pouvait en effet qualifier ce parti politique de refuge des anciens militants nazis.
Mais il faut quand même rappeler, monsieur le Rieder,
ça n'a plus rien à voir.
Il faut quand même rappeler que l'Autriche, à la différence de l'Allemagne, n'a pas été véritablement dénazifiée, et donc cette filiation nazie, revendiquée d'ailleurs en son temps par Jörg Haider, qu'on a vu à la fin des années 90, on se souvient aussi de l'épisode Kurt Waldheim, précédemment secrétaire général des Nations Unies. Il devient président autrichien et le New York Times révèle son passé dans la Wehrmacht. Donc l'Autriche est quand même un pays où, comment dire, l'imprégnation pan-germanique, et encore une fois cette mémoire historique spécifique reste très prégnant.
C'est vrai qu'une conférence des alliés contre le Troisième Reich avait déclaré l'Autriche pays ami avec l'espoir de susciter un mouvement de résistance et de détacher l'Autriche du Troisième Reich.
Ce qui a permis à l'Autriche, immédiatement après la guerre, de poser en victime, en quelque sorte.
Voilà. Et c'est évidemment une sacrée falsification de l'histoire. Mais c'est entré dans l'idéologie, une espèce d'esprit de victime, des gémissements sur le fait que l'Autriche a beaucoup souffert pendant le Troisième Reich. Et c'est vrai, incontestablement, mais
aussi beaucoup
ni plus
fait
ni moins que l'Allemagne.
S'agissant de ce parti d'extrême droite aujourd'hui, imaginons donc que ce candidat Norbert Hofer soit élu demain président. Il faut quand même rappeler qu'en Autriche, le président n'a pas de rôle exécutif. Néanmoins, il peut dissoudre le Parlement et provoquer des élections anticipées, alors qu'elles sont prévues en principe en 2018. Donc là, il peut véritablement entraîner en quelque sorte le succès de son parti jusqu'au Parlement.
Il est évidemment moins fort que le président français de la Ve République, mais il est nettement plus fort que le président de la République fédérale d'Allemagne. Il a, comme vous le dites, la possibilité de dissoudre sans dépendre d'avis conformes le Parlement, et il a un rôle important dans le choix du chancelier.
Alors, précisément, le fait que le Parti social-démocrate qui dirigeait la coalition, qui est toujours en place au niveau exécutif, a donc décidé de changer de chancelier. J'ai demandé à Jean-Yves Camus si ce changement politique à la tête de l'exécutif pouvait signifier une réaction des partis traditionnels.
Ce changement de chancelier intervient bien tard. Lors du premier tour, les deux candidats des partis de la coalition ont obtenu environ 11% chacun. C'est tout de même la preuve, 22% au total, que les partis de la grande coalition ont à faire face à une crise absolument existentielle. Alors le changement de chancelier, il a d'abord contenté beaucoup de gens à l'intérieur du Parti social-démocrate qui commençaient à contester fortement la manière dont le chancelier Faymann avait répondu à cette déroute électorale, c'est-à-dire en faisant voter par le Parlement deux jours après une loi sur l'état d'urgence migratoire dont on ne peut pas dire qu'elle soit en accordance parfaite avec les canons de la social-démocratie. Il y a des voix puissantes qui s'étaient élevées, notamment celle du maire de Vienne, Michael Hoppe, qui réclamait une clarification, voire la fin de la grande coalition, et en tout cas l'engagement qu'il n'y aurait pas de coalition nationale entre un président du FPE et un gouvernement social-démocrate. Donc il y a sans doute une partie de l'aile gauche du SPE qui est rassurée, mais tous les sondages donnent actuellement Norbert Hofer gagnant par environ 53% des suffrages. Voilà, la grande clarification se fera incontestablement après, notamment si les élections anticipées sont décidées et que on puisse voir quelle est la majorité qui en émerge.
Alors on a pu encore le vérifier dans le dernier débat télévisé qui a opposé le candidat d'extrême droite et le candidat vert hier à la télévision. C'est évidemment la question des réfugiés qui pèse sur ce scrutin. Mais on a vu, et c'est le paradoxe, vous y faisiez allusion, Jean-Yves Camus, on a vu que le gouvernement en place a pris des mesures que, franchement, l'extrême droite renierait difficilement, des mesures qui ont beaucoup choqué dans le reste de l'Europe.
Ah, c'est vrai que le terme même d'état d'urgence migratoire est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Parce que cela revient en quelque sorte à considérer que l'état d'urgence peut être déterminé par la présence même de personnes qui sont des migrants fuyant des conflits. Un petit peu comme nous avons, nous, un état d'urgence qui est déterminé, pour le coup, par l'existence d'une véritable menace imminente et massive du terrorisme. Le chancelier Faymann a cru, à mon avis, couper l'herbe sous le pied du président possible qu'est Norbert Hofer. C'est pas de bonne politique. C'est pas de bonne politique. La preuve, c'est qu'il a perdu son poste. Et puis, très honnêtement, au plan de l'image internationale de son parti et de son pays, c'est vrai que faire voter cette loi, d'une part, prévoir de construire un mur à la frontière avec l'Italie, au Brenner, pour empêcher donc le flux de réfugiés qui, après être arrivé par la route des Balkans, peut arriver par l'Italie, c'est tout de même quelque chose qui rejoint davantage la politique de M. Orban en Hongrie et du gouvernement de M. Fico en Slovaquie. Et il y a là un bloc géographique quand même qui est assez remarquable. C'est l'Autriche, la Slovaquie et la Hongrie qui sont des pays limitrophes, que la géographie place évidemment au carrefour des routes migratoires, comme c'était d'ailleurs le cas, il faut le remarquer, au début des années 90, dans la guerre civile yougoslave, parce que la première vague de migrants venant d'un conflit, elle n'est pas arrivée avec ceux du Moyen-Orient en 2015-2016, mais dans les années 90, par les Balkans déjà, après la guerre civile yougoslave, l'Autriche est limitrophe par le sud avec les pays de l'ex-Yougoslavie, et déjà, ça avait été un des facteurs qui avait permis la percée du FPE et l'appropriation du thème de l'islam, puisque de nombreux migrants de l'ex-Yougoslavie étaient des bosniaques, donc des musulmans.
Jacques Le Rider, je rappelle que vous êtes historien, vous avez dirigé l'Institut français à Vienne. Il faut quand même que nous autres, en France surtout, nous prenions la mesure de cette pression migratoire sur l'Autriche. Donc, comme vient de le dire Jean-Yves Camus, un petit pays enclavé. Mais il est vrai que par rapport à la population autrichienne, l'afflux de réfugiés, je crois, plus 220% de réfugiés accueillis en Autriche ces deux dernières années, c'est évidemment un phénomène qu'il faut souligner.
Oui, je crois qu'il faut le souligner absolument, parce qu'en effet, le comportement démagogique de M. Faymann, qui a cru pouvoir courir après le FPE pour faire encore mieux que lui, c'était en effet une erreur d'appréciation fatale. Mais l'Autriche est tout de même traditionnellement une terre d'accueil qui s'est conduite depuis l'époque de la guerre froide et de l'accueil des réfugiés politiques de Hongrie et d'autres pays au moment des révolutions brisées par l'armée rouge. Et puis, comme le rappelait Jean-Yves Camus, au moment des guerres en Yougoslavie, oui. L'Autriche s'est toujours conduite très généreusement. Et,
c'est moins le cas aujourd'hui.
Mais c'est encore le cas. Vous rappeliez la population totale, 8,6 millions. Il semble, si mes informations sont exactes, que l'Autriche a accueilli en 2015 90 000 réfugiés. Ça fait donc plus de 10% de sa population. Écoutez, je voudrais savoir si nous, en France, nous pourrions afficher des chiffres comparables.
Ah, la réponse est non, ça c'est
voilà.
sûr.
Donc, constatons en effet qu'il y a des excès, y compris au passif du chancelier Faymann, mais...
Donc, chancelier sortant, remplacé
mais
il y a quelques jours.
Ne jetons pas la pierre à l'Autriche. Il faut savoir tout de même que près d'un million de migrants ont transité par l'Autriche, que l'Autriche a été complètement débordée et s'est comportée du mieux qu'elle pouvait, souvent avec dignité. Je voudrais souligner
oui, pas toujours, il faut quand
je
même...
Je voudrais souligner que le maire de Vienne, Heupel, a eu une ligne vraiment très généreuse et ferme sur la question de l'Autriche terre d'accueil. Alors que la population réagissent mal et ne supportent pas ce qu'elles considèrent comme un désordre et comme un risque pour la sécurité publique. Bon,
non, mais on a vu les barbelés sur cette frontière. Alors, le Brenner, là, le projet de fermer le Brenner, ça a été annulé.
C'est un revirement qui a été très vivement reproché à Faymann et qui est une des explications pour son fiasco. Mais c'est dommage, vraiment, c'est dramatique presque qu'il ait entraîné son gouvernement dans ce type de mesures, parce que jusque-là, le gouvernement autrichien avait su, se comporter très convenablement et même assez généreusement.
Vivien Pertuso, on vous retrouve à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du bureau de l'IFRI à Bruxelles. Quelle est la place de l'Autriche dans l'Union européenne? Et d'abord, quand l'Autriche est-elle entrée dans l'Union?
La place de l'Autriche, c'est comme tout État membre, la place d'un État membre. C'est-à-dire qu'elle a, elle a une voix parmi d'autres conseils européens. Parce qu'elle est relativement petite et que sa population est petite, son poids au Conseil des ministres est relativement limité. Après, elle est entrée effectivement dans l'Union européenne un peu tardivement par rapport à beaucoup d'autres États membres. C'est-à-dire que, en l'occurrence, elle est entrée en 1995, en même temps que la Suède et la Finlande. Donc c'est assez tard en fait pour l'Autriche. Donc ça c'est un facteur à avoir à l'esprit parce que finalement l'Autriche est un pays nouveau dans l'Union européenne.
Mais elle est entrée à la fois dans la zone euro et dans Schengen.
Oui, alors effectivement, contrairement à la Suède par exemple, mais à l'instar de la Finlande, elle a rejoint et la zone Schengen et la zone euro sans délai particulier. Donc c'est vrai que finalement, l'Autriche au sein de l'Union européenne a une position assez utilitariste. C'est-à-dire que le point central, le point clé pour l'Autriche au sein de l'Union européenne, c'est le marché intérieur. Justement, effectivement, par sa place géographique, elle est sujette à tous les mouvements migratoires, mais par sa position géographique, elle est aussi sujette à tous les échanges commerciaux. Et donc c'est vrai que l'Autriche a voulu s'installer comme le hub entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est d'un point de vue commercial. Et ça, c'est quelque chose qui était fondamental et qui reste fondamental dans la politique européenne de l'Autriche et qu'on voit à plusieurs reprises d'ailleurs dans ses positions par rapport à l'approfondissement du marché intérieur. Et elle considère que finalement, dans le calcul coût-bénéfice, il est acceptable de faire partie de la zone euro malgré certaines critiques qu'on peut voir, notamment en termes de flexibilité vis-à-vis de certains États membres. Elle accepte la zone Schengen malgré notamment le manque de protection des frontières extérieures, parce que d'un point de vue des bénéfices, le marché intérieur lui apporte des bénéfices supérieurs aux coûts politiques qui peuvent être engendrés par l'appartenance à la zone euro et à la zone Schengen.
Oui, on a d'ailleurs vu que le candidat d'extrême droite, donc Norbert Hofer, qui sera peut-être élu président de l'Autriche demain, a assuré qu'il n'était pas question, selon lui, de que l'Autriche sorte ni de la zone euro ni de Schengen et qu'il n'organiserait pas de référendum dans ce sens. Néanmoins, on a vu, et c'est assez peu banal, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, sortir de ses gonds par anticipation, dans un long entretien au journal Le Monde avant-hier, je crois, et dire que, voilà, lui soutenait le candidat vert et qu'il n'était pas question de dialoguer avec l'extrême droite.
Oui, effectivement, on a un changement de position, alors pas tant dû à la Commission européenne, mais surtout dû à la personnalité de Jean-Claude Juncker, qui dès le début de son mandat a déclaré on peut difficilement le nier, que c'était un homme politique avant tout. Il a quand même été à la tête de son pays pendant presque 20 ans, le Luxembourg en l'occurrence, et on l'a vu à plusieurs reprises, notamment pendant la crise grecque, prendre des positions politiques qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir de la part du président de la Commission européenne, du moins pas depuis Delors. Et ça c'est effectivement un changement de paradigme, un changement politique très majeur, parce que la Commission européenne, qui est censée être une institution neutre, donc apolitique, et qui est censée faire avancer l'intérêt européen, généralement essaie de ne pas rentrer dans les débats nationaux, contrairement à ce que Jean-Claude Juncker peut faire assez régulièrement, et
oui,
là, il l'a fait effectivement sur l'Autriche.
Il l'a fait sur l'Autriche et aussi d'ailleurs sur la Grande-Bretagne, puisque il a traité les Britanniques qui préférait le Brexit de déserteur, ce qui était évidemment un terme un peu particulier. Mais revenons au cas de l'Autriche. On se souvient, Vivian Pertuso, que l'Union européenne, en d'autres temps, mais enfin ce n'était jamais qu'il y a quoi, une quinzaine d'années, s'était rebiffée quand le gouvernement autrichien avait inclus, c'était à l'époque de Jörg Haider, avait inclus l'extrême droite. Et là, il y a eu des sanctions décrété contre l'Autriche.
Oui, effectivement, l'épisode du début des années 2000 a laissé quand même un souvenir assez amer au sein de l'Union européenne, parce que c'était la première fois et la seule fois jusqu'à présent qu'un État membre se trouvait un petit peu blâmé. C'est-à-dire qu'on a l'habitude au sein de l'Union européenne de blâmer les États qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais rarement les États qui en font partie. C'est vrai que cet épisode a laissé quand même un souvenir assez amer, dans le sens où ça n'a pas eu un grand effet politique en réalité, à part de montrer que, on était finalement peut-être pas tous au même niveau de maturité politique, etc. Et donc ça a créé plus de division que d'unité.
Mais les sanctions n'ont pas servi à grand chose.
Non, les sanctions n'ont pas servi à grand chose. Et c'est vrai qu'il y a quand même un élément qui est fondamental et qui peut expliquer aussi la différence entre le début des années 2000 et aujourd'hui. C'est qu'au début des années 2000, finalement, on n'avait pas tous les pays qui sont aujourd'hui en Europe, qui font partie de l'Union européenne et qui sont entrés dans les années 2000. Et donc on avait principalement des pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe du Nord. Et aujourd'hui, et on l'a vu notamment avec la Hongrie et avec le gouvernement de Viktor Orban, il y a beaucoup plus de réticence de la part des États membres à sanctionner d'autres États membres, simplement parce que si on en sanctionne un, on serait prêt à en sanctionner un autre, etc. Et comme il y a le principe d'unanimité en matière de sanctions, notamment pour les questions de règles de droit, on voit mal comment aujourd'hui, si l'Autriche venait à élire un président d'extrême droite, l'Union européenne pourrait engager une procédure de sanctions.
On reste à Bruxelles avec vous, Daniel Gros. Bonjour, merci d'être avec nous par téléphone. Vous dirigez un centre de recherche sur l'Europe politique. Vous avez publié dans un recueil de papiers de l'Institut Bruegel une étude très intéressante sur le lien, ou plutôt sur l'absence de lien, selon vous, entre la performance économique et les poussées d'extrémisme politique. Et donc, s'agissant de l'Autriche, où l'on voit que le chômage est très bas, puisqu'il atteint, je crois, 5,6%. Cela voudrait donc dire que la prospérité économique n'empêche pas une manifestation extrémiste sur le plan politique.
Tout à fait. C'est ce qu'on voit très bien ces jours-ci dans l'Autriche, mais on le voit aussi dans le reste de l'Europe. La tendance est claire. Dans le nord de l'Europe, qui se porte assez bien du point de vue économique, y compris la Scandinavie, l'extrême droite l'emporte sur l'extrême gauche. Mais le populisme y est, on voit le croître. Par contre, dans l'Europe du Sud, où il y a des problèmes économiques majeurs, l'extrémisme prend la forme d'extrémisme de gauche, avec notamment les partis Syriza au pouvoir. Mais on a un peu l'impression que le populisme dans le nord de l'Europe, ce soit plutôt une expression d'une opposition à ce qu'en fait le gouvernement. On n'a pas encore vu aucun cas où les extrémistes de droite aient eu vraiment une majorité pour gouverner. C'était plutôt des expressions d'opposition, des protestes, comme on le voit maintenant dans le cas de l'Autriche, parce que le président de l'Autriche, après tout, c'est une fonction plutôt représentative.
Néanmoins, tout le monde s'accorde à dire que la crise des réfugiés est la clé d'explication première de la poussée de l'extrême droite en Autriche. Est-ce que cela veut dire, selon vos études, que les réfugiés sont perçus comme une menace sur l'emploi, même dans les pays où, encore une fois, la situation économique est plutôt bonne?
Non, je dirais que c'est plutôt une crise identitaire. Ce n'est pas perçu comme une crise ou une menace économique, parce qu'après tout, comme vous l'avez dit, en Autriche, il n'y a pas vraiment de chômage. Même chose en Allemagne, et encore plus en Scandinavie. C'est plutôt la question, quelle nation sommes-nous? Est-ce que nous sommes une nation d'immigration ou pas? C'est la grande question qui se pose partout en Europe. Et c'est de là que vient la crise identitaire qu'on voit maintenant en Autriche.
Cette crise identitaire, Daniel Gros, on voit évidemment que dans les pays comme l'Autriche, qui ont un scrutin proportionnel pour exprimer la variété des opinions dans leur démocratie, dans tous les pays qui ont un scrutin proportionnel, c'est là où l'on voit des poussées extrêmes, soit à droite, soit à gauche.
C'est ça. Si on a un système majoritaire, évidemment, on a toujours le danger que même un parti qui reste minoritaire, dans le sens qu'il n'a jamais plus de 50% de voix, pourrait à la fin gouverner parce qu'il pourrait avoir plus de voix que les autres, que les centres, par exemple. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de pays du Nord où il y a les principes majoritaires, on voit surtout une poussée d'un extrémisme qui n'est pas tellement poussé comme d'autres pays.
Merci à vous, Daniel Gros. Vous parlez de l'Europe du Nord. Eh bien, allons-y pour vous rejoindre, Damien De Georges. Vous êtes donc à Stockholm. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français des relations internationales. On méconnaît la situation politique des pays scandinaves qui sont considérés à juste titre d'ailleurs comme des démocraties modèles avec un système social extrêmement robuste, et néanmoins on voit que au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande et jusqu'en Islande, les partis populistes, sinon les partis d'extrême droite, sont majoritaires et participent dans certains cas au gouvernement. Alors commençons par le Danemark, parce que c'est là où depuis 15 ans, je crois, le parti qui s'intitule le parti du peuple danois, alors il n'est pas au gouvernement, mais le gouvernement ne peut rien faire sans lui, si j'ai bien compris.
Bonjour, oui, effectivement, il y a une poussée des partis de droite identitaire dans les pays nordiques, et le Danemark est le pays qui a connu cette poussée depuis le plus longtemps, avec le Parti du peuple danois, qui est installé véritablement dans le paysage politique depuis l'élection parlementaire de 2001, donc il y a 15 ans, et qui, aux dernières élections, a fait 21,1%, donc en 2015, alors qu'il avait fait en 2011 12,3%. donc il a presque doublé son score, et il est arrivé en tête du bloc des partis de droite, ce qui fait en fait que le parti actuel qui gouverne n'est pas celui arrivé en tête, et il a sa majorité évidemment grâce au parti du peuple danois, et donc le parti du peuple danois finalement gère le pays depuis le Parlement.
Passons à la Suède, où là, le parti d'extrême droite s'appelle le parti des démocrates suédois. Il y a en fait en place un gouvernement de coalition social-démocrate vert, qui est un gouvernement minoritaire, mais qui s'est organisé avec les conservateurs pour établir une sorte de cordon sanitaire par rapport à l'extrême droite, ou en tout cas pour faire passer le budget.
Alors les démocrates de Suède, effectivement, ont fait leur entrée au Parlement suédois en 2010, avec un score de 5,70%, et en 2014, aux dernières élections, ils ont fait 12,86%. Et donc, il y a effectivement une poussée de ce parti en Suède. Suite aux dernières élections, il y a eu l'annonce d'élections anticipées, juste quelques mois après, qui ont finalement été annulées, puisque les partis traditionnels, disons, ont trouvé un accord pour faire que les élections puissent être évitées.
Mais là aussi, on a vu que la crise des réfugiés a contraint le gouvernement de casser en quelque sorte la réputation d'accueil de la Suède. Il faut rappeler que la Suède, de tous les pays européens, est celui qui a accueilli au cours des dernières années le plus grand nombre de réfugiés. Et néanmoins, la Suède a rétabli les frontières.
Effectivement, alors c'est un défi également pour la coopération nordique, qui remonte aux années 1950 et qui est très avancée. C'est un Schengen beaucoup plus avancé que l'on connaît, avec une liberté de circulation très simple entre les pays nordiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tous rentrés en même temps en 2001, même la Norvège et l'Islande qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et donc au début de l'année, le gouvernement suédois avait décidé de rétablir des contrôles aux frontières au sud de la Suède, entre le Danemark et la Suède, et ça avait eu beaucoup d'impact sur ne serait-ce que cet esprit nordique, puisque il y a eu une construction régionale qui s'est faite entre la région de Copenhague au Danemark et le sud de la Suède avec la Scanie, qui tire la croissance de la Suède par ailleurs, et donc ça a été un signal qui a laissé quelques traces sur cette coopération.
Alors passons maintenant à la Norvège et à la Finlande. Pardon. Donc là, on voit que l'extrême droite est au pouvoir.
Oui, alors en Norvège,
enfin participe au pouvoir.
Voilà, avec le Parti du Progrès, qui a fait 16,3% aux dernières élections en 2013, et son leader, Siv Jensen, qui est ministre des Finances. Côté finlandais, les vrais Finlandais ont fait, donc le parti et les vrais Finlandais ont fait 17,65% aux dernières élections en 2015. Son leader, Timo Soini, est ministre des Affaires étrangères.
On termine, si j'ose dire, avec l'Islande, qui est quand même géographiquement très éloignée, mais où il y a là aussi l'Islande qui a été frappée de plein fouet par l'affaire des Panama Papers, puisque le Premier ministre a dû démissionner. Mais en Islande aussi, il y a des phénomènes comparables.
Alors en Islande, c'était quelque part l'effet inverse. C'était plus la gauche de la gauche, avec le Parti des Pirates, qui était à près de 40% dans les sondages avant les Panama Papers, qui montrait une insatisfaction vis-à-vis du gouvernement. Curieusement, avec l'annonce des élections, son score dans les sondages a baissé. Et on a également les questions identitaires qui se posent en Islande, beaucoup moins, de façon beaucoup moins intense que dans les autres pays nordiques. Mais tout de même, on notera un débat qui a eu lieu récemment suite à la proposition de l'Arabie Saoudite de financer à hauteur $1 million la construction d'une mosquée à Reykjavik.
Alors qu'il ne doit pas y avoir énormément de musulmans à Reykjavik ?
Non, pas du tout. Mais en même temps, l'Islande est un pays qui fait figure de modèle en termes de liberté de la femme. On se rappelle que l'Islande avait élu la première femme chef d'État en 1980, Vigdís Finnbogadottir. Et d'une façon générale, on peut dire que les pays nordiques sont des pays très ouverts sur le monde et la mondialisation. mais il y a un souhait de protection de l'État-providence scandinave qui se voit dans ses poussées. Et alors il y a également une relation compliquée avec l'Union européenne, mais très clairement, la sensation d'une baisse de cet État-providence a suscité des crispations qui se sont ressenties dans les élections.
Merci Damien De Georges, chercheur associé à l'IFRI. Vous étiez avec nous depuis Stockholm. On voit bien dans ce tour d'Europe du Nord à quel point partout le phénomène identitaire se manifeste. Et retournons à l'Autriche avec vous, Jean-Yves Camus. Et là, on voit que dans la jeune génération des Autrichiens, même s'ils respirent l'Europe, ce phénomène identitaire, on le voit aussi à l'œuvre.
Ah, cette jeune génération, composée généralement de gens d'abord qui sont très jeunes, parce qu'en Autriche, on va te partir de 16 ans, et puis qui ensuite sont généralement des gens qui ont un cursus d'études courts et qui vont directement dans la vie professionnelle, sont absolument convaincus que les migrants, d'une part, mais aussi les gens des pays limitrophes appartenant à l'ancien bloc de l'Est constitue une menace existentielle pour leur avenir, que ce sont des concurrents par le dumping social dans le cas des personnes des pays de l'Est, et puis c'est aussi une menace identitaire. Principalement quand ce sont des migrants venant du Moyen-Orient, ce sont des gens qui remettent en cause les valeurs fondamentales d'une société qui reste quand même en dehors des grandes villes, qui ont voté massivement, elles, contre Hofer. Et bien, en dehors des grandes villes, l'Autriche reste tout de même un pays très imprégné de culture traditionnelle, où l'emprise du catholicisme reste relativement forte. C'est pas une question de pratique, c'est une question d'imprégnation des valeurs. Et puis il y a aussi toute cette géographie qui joue beaucoup, c'est-à-dire que ces gens sont réellement à la frontière de ce qu'étaient auparavant les deux Europes, et ils voient ce qui se passe en Europe de l'Est, ils voient aussi la rétraction identitaire qui est en train de s'y produire, de la part d'ailleurs de gouvernements qui ne sont pas des gouvernements de l'extrême droite, qui sont malheureusement des gouvernements de partis conservateurs traditionnels, voire de partis qui se disent de gauche, comme en Slovaquie. Par conséquent, tout cela désinhibe, si je puis dire, leur raisonnement et leur fait dire que finalement, même avec l'histoire particulière de l'Autriche, eh bien, il est possible de voter aujourd'hui pour un président qui appartient au FPE.
Donc, ce président pourrait s'appeler dès demain soir Norbert Hofer, donc le candidat du parti d'extrême droite. Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire. Alors, qui est ce Norbert Hofer qui, il y a quelques mois, était quasiment inconnu, sauf dans sa province?
Vous savez, le quotidien Die Presse a titré au lendemain du premier tour d'élection présidentielle le jour où l'Autriche est devenue bleue comme la couleur du FPE, le parti de la liberté d'Autriche, auquel appartient donc Norbert Hofer. L'homme qui a mis KO les candidats des partis traditionnels joue les pères tranquilles. C'est un ingénieur en aéronautique de 45 ans, marié à la tête d'une famille de 4 enfants. Et il incarne, selon le journal suisse Le Temps, une droite décomplexée, mais une droite qui a abandonné son discours raciste pour celui de la défense identitaire et culturelle des Autrichiens, ce que précise le quotidien de Genève. Et c'est vrai, insiste de son côté l'hebdomadaire autrichien Profil, Norbert Hofer affiche un sourire inébranlable. Même quand il attaque son adversaire, il conserve ce sourire de gamin sur son visage glabre, raconte le journaliste. Un sourire qui lui vaut d'être surnommé depuis des années, le visage aimable du parti par la presse. Et d'ailleurs, selon le journal Profil, certains le voient comme un homme politique libéral d'un nouveau type, sympathique, affable, entièrement concentré sur sa tâche. Et surtout, poursuit l'hebdomadaire, Norbert Hofer a veillé pendant toute la campagne à ne pas se présenter comme l'homme en bleu, l'homme du FPE. Dans ses interviews, écrit le journaliste, il donne plutôt l'impression d'appartenir à une lignée de l'EVP, c'est-à-dire le parti de droite, avec des racines chrétiennes sociales.
Alors, on dit volontiers qu'il est en fait l'homme de paille d'un dénommé Strache, qui serait le vrai patron du parti, mais quel est le positionnement politique qu'il a adopté?
Écoutez, si on regarde un peu, si on gratte un peu, comme l'ont fait plusieurs journalistes, on s'aperçoit que Hofer, qui vient quand même même de donner au FPÖ son plus gros score de tous les temps à une élection fédérale, rappelle le journal allemand Die Zeit, est un pur produit de cette formation d'extrême droite. Mieux, celui qui a intégré le FPÖ à l'âge de 23 ans, du temps de Jörg Haider, on faisait allusion tout à l'heure, en est devenu le vice-président, mais aussi son principal idéologue. Il ne s'en tient pas seulement à la ligne du parti, explique le journal allemand Die Zeit, il a largement contribué à la créer, avec des slogans, mais aussi avec des images, comme celle de son revolver, un Glock 26, du nom de ce célèbre fabricant d'armes autrichien que Norbert Hofer s'est offert l'année dernière. D'ailleurs, quand on l'interroge sur les raisons qui expliquent l'augmentation du port d'armes en Autriche, il répond « C'est toujours dans les périodes d'incertitude que les gens cherchent à se protéger », raconte Die Zeit. Et justement, résume le journal allemand, Norbert Hofer entend être, en quelque sorte, le Glock du citoyen autrichien, son protecteur. Car il a répété pendant toute sa campagne « Le pays est menacé par les réfugiés, on en parlait, par le TTIP, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, ou évidemment par Bruxelles. Et face à ces menaces, Norbert Hofer se présente comme le protecteur et pas besoin d'un coup d'État pour prendre le pouvoir. Lui-même a dit au soir du premier tour, il ne faut pas avoir peur de moi. D'ailleurs, il a prévenu, s'il est élu président de la République, il n'emportera pas son Glock 26 à la Hofburg. La Hofburg, c'est le palais présidentiel viennois. Pas sûr que cette promesse suffise à rassurer ses adversaires.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Jean-Yves Camus, je rappelle que vous dirigez l'Observatoire des radicalités politiques. Quand on observe la carte de cette Europe-là, donc disons la carte qui commence à l'Autriche, la Hongrie, les pays du bloc, du groupe que l'on appelle le groupe de Visegrad, c'est-à-dire aussi la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, on voit en fait que la frontière a tendance à s'estomper entre la droite nationaliste identitaire qu'incarne Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et l'extrême droite à l'autrichienne.
Quand on regarde l'action politique, en tout cas, la différence est de plus en plus faible. Les matrices idéologiques sont différentes, mais la différence est de plus en plus faible. S'il y en a une de différence, c'est que les familles politiques qui sont concernées par la réaction à ces phénomènes ne sont pas les mêmes. Monsieur Orban est membre du PPE, du Parti Populaire Européen, dont sont également membres les plus grandes formations conservatrices d'Europe, y compris d'ailleurs les Républicains. C'est donc à cette famille-là que s'adresse à un moment donné la question « Pouvez-vous tolérer en votre sein des gens qui ont une conception de la démocratie qui profondément n'est pas la vôtre ?» Pour ce qui est du FPE, eh bien, ma foi, la question est différente. Le FPE fait partie, avec le Front National, d'une petite formation européenne qui s'appelle l'Alliance européenne pour les libertés. C'est une autre matrice idéologique. Et la question qui va se poser là, ça va être de savoir, ce président du FPE, est-ce qu'il va être ostracisé par la communauté internationale, lui qui va représenter son pays s'il est élu dans les voyages officiels. Kurt Waldheim, quand il avait été élu président de la République autrichienne, en raison de la controverse sur son passé nazi, avait fait l'objet d'un certain nombre de mesures de rétorsion de la part d'États qui ne souhaitaient pas le voir fouler leur sol. Est-ce que cela va être la même chose pour Hofer? Je n'en suis absolument pas sûr. Et d'ailleurs, je suis sceptique sur l'efficacité de telles mesures qui, comme les sanctions prises en 2000 contre les ministres du FPE, finalement ne font que conforter le sentiment des Autrichiens que ces élections, qui somme toute sont démocratiques et libres, sont niées dans leur caractère démocratique par une Union européenne davantage donneuse de leçons que prête à entamer le débat sur le fond.
Jacques Le Rieder, vous êtes historien, directeur d'études à l'école des hautes études. Cette question de l'identité qui est donc centrale dans le cas de l'Autriche, comme dans le cas d'autres pays d'Europe centrale, où il faut toujours aussi souligner, me semble-t-il, le facteur démographique. C'est-à-dire que ce sont des pays qui vieillissent et où, à la crainte des réfugiés, s'ajoute aussi la crainte d'une espèce de disparition lente de la nation, en quelque sorte. Est-ce que c'est le cas en Autriche ?
Certainement, les Autrichiens sont attachés à leur mode de vie, à leur modèle de société, qui a d'ailleurs bien réussi au cours des dernières décennies, puisque l'Autriche est un des pays les plus prospères, les plus pacifiques de l'Union européenne. Et il est certain que si on appelle identitaire l'aspiration à la conservation et à la préservation d'un modèle de société et d'un mode de vie, alors oui, il y a une aspiration identitaire à l'heure actuelle qui est particulièrement portée par le FPE, mais qui est en réalité le patrimoine de toute la classe politique. Et je crois que après avoir souligné, il fallait le faire, la singularité du FPE, pour comprendre son succès possible et probable dimanche, il faut aussi souligner que le FPE n'a plus rien d'exceptionnel, n'a plus en réalité rien d'extrémiste.
Enfin, déclarations de son candidat sont quand même...
Certes, il est plus radical que...
Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais
oui.
Insister sur le fait qu'il serait le seul à thématiser cette identité autrichienne.
Disons qu'il le fait avec plus de virulence. Encore une fois, dans le débat télévisé de l'autre soir, c'est l'Autriche d'abord, uniquement l'Autriche. Il n'y a que l'Autriche qui compte. Je vais dire la tradition d'accueil que vous rappeliez à juste titre au début de notre conversation, il ne l'exprime franchement plus guère. Jusqu'à quel point, encore une fois, est-ce que cet homme, Roder et Strascher, qui je crois est le vrai patron de l'extrême droite autrichienne, jusqu'à quel point est-ce qu'il se revendique aujourd'hui encore de cette appartenance à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le pan-germanisme ?
Écoutez, je crois que les électeurs de Hofer, dans leur je soupçonne même dans leur immense majorité, n'ont pas cette culture historique et seraient même surpris qu'on leur parle des pan-germanistes de l'époque de Schönerer à la fin de siècle et à l'époque 1900.
Enfin, le parti revendique quand même le Tyrol italien. Ça fait quand même partie de ses revendications. Alors que le Tyrol est italien, je crois, depuis quoi, 1919?
Oui, le Tyrol italien, c'est un problème récurrent depuis, en effet, les traités de paix du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
De la première, en l'occurrence.
De la première. Mais, je crois pas que M. Hofer veuille dire autre chose que, en effet, s'immiscer dans la politique italienne pour défendre les intérêts de la minorité allemande au Tyrol du Sud, ce qui est déjà en effet une transgression des bonnes mœurs en Europe, mais je ne crois pas que ça puisse aller plus loin parce que en fait le FPE est extrêmement réaliste et pragmatique à l'heure actuelle. Hein. Mm-hmm. Je ne dis pas qu'il y a un fond idéologique extrême, mais le succès électoral du FPE à l'heure actuelle est fondé sur son professionnalisme dans les campagnes électorales et sur son pragmatisme qui, on l'a bien vu à propos de l'Union européenne, il n'est pas question de la quitter, il est simplement question de taper du poing sur la table de temps en temps pour dire que l'Autriche n'acceptera pas tel et tel programme. Voilà, c'est ça qui explique le succès de M. Hofer.
Jean-Yves Camus, nous approchons de la fin de cette émission. Encore une fois, et Jacques Le Rider vient de le rappeler, il n'est pas question pour le FPE, en principe, de vouloir sortir de l'Europe, mais taper du poing sur la table, oui.
Sortir de l'Union européenne, c'est pas sûr. Par contre, donner un signal à l'Europe qu'elle n'est pas contente de la manière dont ça fonctionne, non seulement institutionnellement, mais dont ça s'est élargi à l'Est, et dont la souveraineté de l'Autriche se retrouve amoindrie. Oui, sans doute, il y en a un côté appel au secours dans toutes ces élections. Davantage que le fait de dire à l'Europe « nous voulons sortir », il y a un côté « il faut que l'Europe change ». Voilà, il y a un déficit de gestion démocratique, il y a un déficit de proximité. Il faut finalement qu'elle change ses fondamentaux.
Jacques Le Rieder, ce déficit de proximité, c'est précisément au cours des dernières années ce que le FPE a réussi en Autriche même. Puisque, et ça on a tendance à le sous-estimer, le parti d'extrême droite a participé à la gestion oui. locale et régionale.
En fait, le grand tournant, ça a été ce coup de tonnerre de l'année 2000 où, pour la première fois, une petite coalition conservateur extrême droite du FPE à l'époque de M. Haider a constitué le gouvernement dirigé par Schüssel. Et depuis, le FPE est un parti coalitionnaire à la fois dans les municipalités, dans les régions et donc il est entièrement intégré aux institutions politiques autrichiennes. Il est complètement normalisé. Je dirais que la dédiabolisation s'est terminée depuis longtemps. Maintenant, on a affaire à un vote offert, parfaitement anodin. Mmh. Et totalement dépourvu de tout caractère transgressif.
Alors, on n'a pas du tout parlé, et c'est mon erreur, de l'autre candidat, puisque, encore une fois, le scrutin est ouvert, même si, apparemment, les rapports de force jouent plutôt en faveur de l'extrême droite. Le candidat vert, qui semble un personnage donc plus âgé, soutenu par les Verts, mais avec un parcours politique assez indépendant, finalement, enfin en dehors, oui. En tout cas, du système.
Alexander Van der Bellen est un homme remarquable, un éminent économiste, un universitaire distingué, un homme très sérieux et en même temps rempli de très nobles convictions.
Enfin, ça a quand même beaucoup surpris quand il n'était pas capable de citer le nombre exact de Länder en Allemagne.
Oui, il a
pour
peut-être...
un économiste distingué et un grand universitaire, c'est troublant.
Oui, écoutez, c'est une étourderie, un trou de mémoire qu'on peut lui pardonner. Je pense que M. Hofer n'est pas non plus infaillible. Mais ce qui est frappant, c'est le fait que les Verts ont réussi en Autriche à devenir un parti tout à fait représentatif et puissant. Est-ce qu'on imaginerait en France que les Verts soient capables de surpasser à la fois les socialistes et les conservateurs des Républicains,
n'est-ce pas ? Ah non, pas ça, c'est... sûrement pas. Non,
donc, alors, là, ça aussi, c'est une singularité.
Enfin, il faut dire que les Verts en France sont particulièrement singulier, oui, enfin, mais, par rapport à ce que l'on vérifie en Allemagne. Par
mais
exemple.
Il faut reconnaître que la surprise du premier tour des présidentielles à Vienne, ça a été bien sûr le score de Hofer, mais c'est aussi le score de Van der Bellen. Incroyable que ce parti qui, dans d'autres pays européens, est assez marginal... est acquis cette base électorale, cette solidité.
Encore une fois, c'est le cas en Allemagne, qui est quand même le pays culturellement,
oui,
politiquement.
Le Bade-Württemberg, à l'heure actuelle, est gouverné par les Verts. Il est certain que un des problèmes de la culture politique française, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est cette entropie des Verts qui manque dans le spectre politique français. on aurait besoin d'un parti comparable à celui de Van der Bellen.
Van der Bellen, donc candidat vert au second tour de l'élection présidentielle en Autriche demain. Selon vous, je rappelle que vous avez dirigé l'Institut français à Vienne pendant 2 ans, donc vous connaissez la mentalité autrichienne et en tout cas viennoise. La mise en garde du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui encore une fois dans cet entretien au Journal Le Monde a dit « aucun dialogue possible avec l'extrême droite », comment est-ce que cela peut agir en quelque sorte?
Bon, il est évident que je suis d'accord avec Monsieur Juncker, mais en même temps, je considère que son intervention est complètement maladroite et intempestive. C'est une erreur d'appréciation presque dangereuse, parce que depuis l'affaire des sanctions, on sait que ces admonestations venues de l'étranger ne provoquent que l'entêtement de l'électorat FPE en Autriche qui trouve scandaleux, inacceptable, intolérable qu'on vienne lui donner des leçons et qui en tirera certainement un peu plus encore de rancune eurosceptique. Donc là, je pense que c'est une erreur.
Dernière question, que peut faire le nouveau chancelier, donc social-démocrate, qui vient d'être installé par son propre parti à la tête du gouvernement autrichien? Il a commencé par dire qu'il n'était pas question de travailler avec l'extrême droite, et puis il s'est ravisé. Comment peut s'installer une espèce un fonctionnement, je dirais, normalisé? Admettons que le président élu demain soit M. Hofer, donc entre président d'extrême droite et ce chancelier social-démocrate qui, en principe, donc devrait rester à la tête de cette coalition avec les deux partis qui ont été laminés au premier tour jusqu'aux prochaines législatives de 2018. Est-ce que c'est un système qui peut tenir?
Non, personne ne pense que ce soit tenable. La question est de savoir quand la dissolution du Parlement va se produire et selon quelle procédure. Est-ce que le gouvernement de M. Kern va démissionner? Est-ce que M. Hofer va, pour ainsi dire, le révoquer? Bon, ce sont des questions qui se posent, mais sur un point, tout le monde semble d'accord. Continuer comme ça, c'est pas possible. On peut pas imaginer qu'un gouvernement qui représente dans les urnes un petit 20% ou 21% prétendent continuer à garder le gouvernement. Il y aura forcément un changement, et c'est précisément ce changement, ce bouleversement même, que réclament les électeurs de M. Hofer.
Merci mille fois, merci à vous Jacques Le Rider de nous avoir ainsi éclairé sur la politique et la culture politique autrichienne. Vous avez notamment publié un ouvrage chez Hermann en 2015, La censure à l'œuvre, Freud, Krauss, Schnitzler, et vous avez présenté et traduit, et je vous en félicite, L'appel aux Européens de Stefan Zweig en 2014. Merci à Jean-Yves Camus qui a publié avec Nicolas Lebourg Les droites extrêmes en Europe au seuil en 2015. Je remercie Vivien Pertuso à Bruxelles, Daniel Gros et à Stockholm, Damien Desgeorges qui a publié un livre sur les terres rares chez l'Armatan en 2012. Merci à Eric Scholl, à Luc-Jean Reynaud à la technique, Anthony Thomasson, Luc-Jean, comme d'habitude, à la réalisation, Anthony à la technique, Meryl Moneghetti à la préparation. Merci à tous, très bon week-end, place à Dominique Rousset.